Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve sur un cours sur la Trinité. Dieu se révèle en trois personnes. Donc la Trinité, c'est le dogme central de la foi chrétienne, c'est-à-dire un Dieu unique en trois personnes. Seulement, il faut bien dire que la représentation que nous avons parfois de la Trinité est parfois un peu abstraite. Et donc on va essayer aujourd'hui de mieux comprendre ce mystère de la Trinité que nous confessons. Et effectivement, nous le confessons. Et nous confessons, nous professons notre foi, et quand nous la professons, nous disons que nous croyons que Dieu s'est révélé aux hommes qu'il a créés. Donc nous croyons en un Dieu créateur. Nous croyons aussi que Dieu sauve son peuple, et ce n'est pas n'importe quel peuple, c'est le peuple élu d'Israël, mais qu'il sauve également toute l'humanité par son Fils Jésus-Christ, le Fils engendré du Père. Le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous, nous dit saint Jean. Donc c'est le Fils unique engendré. Et nous confessons aussi, et nous croyons également, que le salut donc vient de Dieu révélé, qui s'est révélé en lui-même et en son Fils mort et ressuscité, par la puissance de l'Esprit. Donc lorsque nous confessons notre foi, nous confessons notre profession de foi, et déjà une profession de foi trinitaire. Dieu créateur, Fils engendré par la puissance de l'Esprit. Et donc, nous avons là le schéma de ce qu'on appelle l'économie du salut, la manière dont Dieu se donne et se fait connaître. Alors, je vous propose de vous lire un texte d'un théologien en dogmatique et en patristique, qui était professeur à l'Institut catholique de Paris, il s'appelle Joseph Wolinski. Voilà ce qu'il dit. La confession, ça doit être votre texte 1. La confession de la Trinité constitue un paradoxe majeur, non seulement parce qu'elle tient que Dieu est à la fois un et trois, mais encore parce que la deuxième des trois personnes, le Christ, est en même temps un homme, ce qui introduit un facteur nouveau d'altérité en Dieu, et ce d'autant plus que cet homme est inséparable de son corps, qui est l'Église. Donc dans la confession de foi de la Trinité, nous confessons donc que Dieu s'est révélé en trois personnes, et que la deuxième personne de la Trinité, en l'occurrence le Fils, a cette particularité d'avoir une double nature. Il est homme et Dieu. Donc voyons notre premier point sur la révélation trinitaire. Grand 1, la révélation trinitaire. Lorsque nous disons que la révélation de Dieu est trinitaire, cela signifie que dans la Trinité elle-même, il y a une économie, c'est-à-dire un principe, un mouvement, une circulation. Et donc cette économie, on peut la comprendre comme étant l'acte de Dieu. C'est l'acte de Dieu par lequel il met en œuvre sa révélation. Il y a une mise en œuvre. Il y a un principe en Dieu qui met en œuvre sa révélation dans une économie particulière, l'incarnation du Fils. Donc cet acte de Dieu est qualifié de relation. Donc il y a une relation intérieure des trois personnes entre elles, donc une circulation de relation des trois personnes entière, donc une relation intérieure, mais il y a aussi une relation extérieure pour les hommes. Et ce qui caractérise cette relation interne et externe, dans les deux cas, c'est la surabondance de l'amour de ce Dieu qui se révèle, et qui se révèle de la manière dont il choisit, la manière qu'il choisit. Donc on pourrait comprendre aussi qu'il y a en Dieu, en la Trinité, un amour avec un tiret amour-relation, ça pourrait donner ça. Un amour, parce que dans les deux cas, que ce soit externe ou interne, c'est l'amour. Donc, une relation interne on pourrait dire comme ça, c'est pas... voilà, et on pourrait rajouter en dessous un amour en relation. Donc, la relation interne, ça c'est la relation interne des trois personnes, avec la circulation de l'amour des trois personnes entre elles, que l'on voit bien à la mort du Christ, le Père ressuscite le Fils, pas simplement pour montrer sa puissance, mais aussi par amour.
Excusez-moi,
non, pas de souci. Bienvenue. Bonjour. Vous passez.
Bonjour, bonjour.
Allez-y. Je ne sais pas s'il faut ouvrir la deuxième porte. Je vous laisse ouvrir la deuxième porte.
Non, non, c'est bon, ça va.
On va se mettre
là. Voilà. Et... au niveau externe, donc c'est pour les hommes, c'est un amour en relation. Cet amour, il se met en relation avec nous, en relation avec les hommes. On parle alors de procession dans la Trinité. Tout à l'heure, je vous parlais de mouvement, de circulation. Eh bien, il y a de la procession. Ça, c'est le terme que l'on utilise en théologie trinitaire. Mais ce terme-là, il vient du latin procedere, qui veut dire se déplacer. Donc il y a un déplacement interne en la Trinité. Cedere, se déplacer. Il procède du Père et du Fils, ou il procède du Père par le Fils. Je vois à quoi vous faites allusion. Voilà. Donc dans l'Écriture, il y a une articulation des trois personnes de la Trinité, parce qu'on retrouve ces trois personnes dans la Trinité. En revanche, vous ne trouverez pas dans l'Écriture le mot « Trinité » écrit tel que. On ne le trouve pas. En revanche, on retrouve, par exemple, dans Actes 2, 32-33, « Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous en sommes témoins. » Exalté par la droite de Dieu, il a donc reçu du Père l'Esprit Saint promis et l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Donc on a bien là cité à la fois le Père, le Fils et l'Esprit. Les trois noms sont donc cités avec, on perçoit bien, une origine unique qui est Dieu. Chez Paul, on retrouve également dans 1 Corinthiens 12, chapitre 12, versets 4 à 7, on peut lire « Il y a une diversité de dons de la grâce, mais c'est le même esprit, diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur, diversité de modes d'action, mais c'est le même Dieu qui, en tous, met tout en œuvre. À chacun est donnée la manifestation de l'esprit en vue du bien de tous. » Donc ce lien, cette relation interne à la Trinité, va se communiquer à l'extérieur. On pourrait dire que cette communication d'amour, elle est en vue de, elle est pour nous. C'est pas la Trinité, elle ne se conçoit pas comme quelque chose de clos qui ne concernerait que les trois personnes de la Trinité, uniquement elle. La Trinité n'est pas close en elle-même. Elle est pour se donner, elle est pour se révéler, elle est pour sauver. Elle est toujours en vue de l'homme. Et donc cette communication, elle doit se comprendre à partir de l'union des trois personnes de la Trinité. Alors on va plutôt parler en termes d'union qu'en termes de fusion. Vous voyez, là, ça c'est le risque. Les trois personnes de la Trinité sont unies, mais ne se confondent pas. Et lorsque on commence à parler de personnes, on voit bien que dans l'histoire des conciles, puisqu'on arrive là au dogme de la Trinité, c'est le terme de personne qui a été le plus adéquat, mais on voit bien que le terme lui-même, il est limité. Parce que quand on, en 325 à Nicée, on va parler de personne, donc en grec d'hypostase, il est bien entendu que la compréhension de la personne en 325 n'est pas du tout la même que celle que nous avons aujourd'hui quand on parle d'une personne. On va parler d'un individu, on va parler d'un sujet. Mais au moment où il a fallu déterminer le dogme de la Trinité, on était encore dans un milieu où on parlait grec, et c'est donc le terme d'hypostase qui a été utilisé, qui a été employé pour parler des personnes qui composent la Trinité. Donc normalement, vous avez un tableau, le vocabulaire des concepts d'essence et de personne au IVe siècle. Voilà, en trois colonnes, vous avez le terme, donc en français, essence, substance, qui donne en grec lousia, ou en latin la substance ou l'essence. Au centre, vous avez la personne, en grec c'est hypostasis, en latin c'est persona. Ensuite, vous avez la nature, qui est en grec physis ou natura en latin. Et vous avez la colonne, vous avez la signification de ces termes. Et vous voyez bien que quand on parle de personne ou d'hypostasis, on peut lire, le terme de personne se rapporte ici à une personne singulière dont l'essence et la nature ne diffèrent pas des autres personnes. Singulier signifiant ici que cette personne possède des caractères qui lui sont propres. Mais vous voyez bien que si on est au niveau de la deuxième ligne sur le terme d'hypostasis personne, eh bien le terme de personne en grec va se rapporter de la même manière à l'essence, c'est-à-dire à lousia, ou à la nature, ou à physis. Ça veut dire que le grec va donner à un mot plusieurs significations, nature, essence ou substance, et personne. Alors ça a été tout de même une difficulté. Parce que le terme d'hypostasis, parlant de personne, il a fallu non pas le justifier, mais il a fallu le défendre par rapport à l'hérésie d'Arius, qui a provoqué la convocation du premier concile œcuménique à Nicée en 325. Donc le problème de ce terme, et ça c'est tout le problème du langage humain, c'est qu'il est limité. Et parlant de Dieu, nous n'avons que notre langage pour parler de Dieu. Donc parlant de Dieu, on ne peut en parler que par analogie, par comparaison. C'est à partir de ce que l'on connaît que l'on peut à peu près établir, identifier, définir ce que l'on ne connaît pas. Ça va ressembler à ce que l'on connaît. Donc le terme de personne, c'est un terme qui est utilisé parce que paranalogiquement, on sait ce qu'est une personne. En tout cas, la représentation de la personne, même si Dieu n'est pas une représentation. Parce que bien sûr, le terme de personne dit bien plus concernant Dieu, dit bien plus que ce qu'est une personne. Ça, vous l'avez compris. Mais la question, c'est que justement, nous lisons dans le premier livre de la Genèse que l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc vous voyez bien que là aussi, on va utiliser la comparaison qui va permettre de dire que Dieu est comparé à ce que l'homme connaît la personne, et vous voyez bien que lorsqu'on dit que Dieu est une personne, on dit plus quelque chose qui appartient à l'homme que quelque chose qui concerne Dieu, puisque Dieu n'est pas une personne créée. Vous voyez la difficulté, il faut bien qu'on se pose là. Dieu n'est pas une personne créée, c'est l'inengendré, c'est le principe premier. Quand on parle de personne, même si on en parle par analogie, on va avoir en tête l'idée d'une personne, d'un sujet créé, d'un être, d'un individu. Donc je ne sais pas si vous percevez déjà le paradoxe qu'il y a à utiliser ce mot-là concernant Dieu. Donc, bien sûr, on ne confond pas Dieu et l'homme. Et donc, pour ne pas le confondre, la seule chose que nous avons, c'est le recours à l'analogie, c'est la comparaison. Mais cette comparaison-là, il faut bien que nous allions plus loin que la comparaison, justement pour expliquer qu'on fait bien une comparaison. L'homme est créé à l'image de Dieu, mais en même temps, l'homme n'est pas Dieu. Il est créé à l'image de Dieu et l'homme n'est pas Dieu parce que Dieu, c'est l'inengendré. Donc il ne peut pas être, il ne peut que ressembler. Ou peut-être même pas le reflet, juste l'image. Ce qui va nous permettre de nous mettre en relation avec ce qu'est la Trinité dans sa relation interne, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Lui seul, le Fils de Dieu, engendré, non pas créé, comme nous le confessons, l'incarnation du Fils permet de comprendre la Trinité. Ça veut dire que la Trinité, la compréhension de la Trinité, elle est christologique. C'est à partir du Fils que nous accédons au mystère de la Trinité. Parce que c'est par l'incarnation du Fils que la Trinité nous est révélée. Alors, notre point suivant, le petit point 1.1, incarnation et Trinité sont donc liés. Dans l'incarnation, Dieu se donne à nous, dans son Fils et par son Fils, et c'est donc par lui que le Père se communique, et c'est donc par le Fils que le Père nous communique son esprit. Donc la Trinité doit se comprendre à partir de l'événement Jésus-Christ. Autrement dit, seul Jésus-Christ nous donne accès au mystère de la Trinité et que son incarnation révèle la Trinité. Sans le Christ, on n'a pas accès à la Trinité, ni à cette révélation. Et donc, en se révélant dans l'Ancien Testament, puis en se manifestant par son Fils dans le Nouveau Testament, eh bien, Dieu va lui-même instaurer une distinction dans les personnes. Alors ça, c'est important. Instaurer une distinction dans les personnes et une distinction dans leur action. Si vous voulez bien comprendre ce qu'est la Trinité, on doit bien comprendre que c'est Dieu lui-même qui opère cette distinction. Distinction des personnes et distinction de leur action. Par exemple, l'incarnation, c'est un acte qui va engager chacune des personnes de la Trinité, par exemple. Lorsque le Verbe est fait chair, il y a une action à partir du Père, par la puissance de l'Esprit, en faveur du Fils. Donc vous voyez bien que l'action, elle concerne les trois personnes et elle engage les trois personnes, chacune des personnes de la Trinité. Il y a donc un acte trinitaire issu du cœur même de la Trinité, du cœur même de cette relation que l'on dit amour-relation ou relation-amour, cette relation interne à la Trinité. Et donc cet acte d'incarnation, c'est un acte de sortie de soi. Les trois personnes de la Trinité, par l'incarnation, il y a une sortie vers l'extérieur. Une des personnes de la Trinité est, au milieu des hommes, le témoignage de la vie et de la révélation du Père dans la puissance de l'Esprit. Quelque chose qui s'est donné hors d'elle-même. Donc l'enjeu, et c'est tout l'enjeu de notre confession de la Trinité, c'est de tenir l'unité. Bien sûr, trois personnes distinctes, qui ne se confondent pas, mais en même temps, une unité parfaite qui est tenue dans la Trinité, qui est indissoluble dans la Trinité, parce que Dieu est unique. Mais ce Dieu unique se donne et se manifeste en trois personnes. Et ça, c'est bien la difficulté. Comment on peut concilier ? C'est Plotin qui s'est posé la question. Comment pouvons-nous concilier le un et le multiple en même temps ? Donc ça, c'est le grand paradoxe. Donc on va essayer de regarder ce qu'il en est. Donc trois personnes identiques et en même temps trois personnes distinctes. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est
essayer de comprendre pourquoi elles sont identiques et pourquoi elles sont distinctes. Alors, si je dis Père, Fils, Esprit, je dis que le Père, le Fils et l'Esprit sont identiques. Maintenant, il faut que je le justifie. Ils sont identiques en raison de leur nature divine. De leur nature divine. Donc, ils ont du commun. En eux, il y a du commun. Ils partagent la nature divine. Les trois personnes de la Trinité sont identiques, elles partagent la nature divine, donc il y a du commun dans la Trinité. Maintenant, si je dis Père, Fils, Esprit, eh bien je vais dire, oui, il y a de l'identique, mais parce que les personnes ne se confondent pas, il y a du propre en elle. Et ça, il faut que je lui justifie. Pourquoi il y a du propre en elle ? Parce que leur action est différente. Leur action est différente. Ça veut dire que l'action du Père n'est pas l'action du Fils, l'action du Fils n'est pas l'action du Père, et l'action de l'Esprit n'est pas l'action du Fils et l'action du Père. Leur action est propre. Donc il y a du commun et il y a du propre, en raison même de leur action différente. Ça veut donc dire que le Père n'est pas le Fils, et ça c'est le symbole d'Athanase que vous devez avoir.
Je ne sais pas si on en parle tout de suite ou pas, mais on peut le prendre, hein, ça va dans la suite. Si vous reprenez le symbole d'Athanase, je crois que vous l'avez normalement. La fin des textes. Athanase, c'est un père de l'Église. Athanase était secrétaire au concile de Nicée, au premier concile de Nicée, et donc en 325, et il était donc un grand défenseur de la Trinité. Avec lui, on retrouve saint Hilaire de Poitiers. Pourquoi je ne l'ai pas ? Oui, vous l'avez, mais moi je l'ai pas. En fait, dans le symbole, quand vous voyez le symbole, il est très éclairant ce symbole, mais comme tout schéma, il a sa limite. Vous voyez ? Alors on va voir. Donc, Athanase a mis Dieu au centre,
Et il a mis Pater non est Spiritus Sancti, donc le Père n'est pas l'Esprit Saint. Spiritus Sanctus non est Filius, n'est pas le Fils. Et Filius non est Pater et vice versa. Par contre, Dieu est Père, Dieu est Fils et Dieu est Esprit. Donc Athanase nous dit bien ce qu'est Dieu et ce que ne sont pas les trois personnes de la Trinité. Là où la limite de ce symbole est atteinte, c'est qu'en mettant le Père, le Père, le Fils et l'Esprit, en mettant Dieu au milieu, on pourrait croire qu'il y a une quatrième personne.
Oui, oui.
Voilà. Mais en même temps, c'est éclairant pour les actions, parce qu'on comprend bien, mais oui, l'action du Père n'est pas l'action du Fils. Le Fils n'est pas ressuscité lui-même. C'est le Père qui ressuscite le Fils. Et le Fils ne fait pas l'action du Père. Est-ce que ça vous éclaire ? Et donc du coup, là, on doit bien penser l'unité. C'est-à-dire qu'on ne met pas de séparation là. Ce n'est pas différent. Tout ça, c'est l'unité de la Trinité. Ils ont du commun, mais ils ont du propre. Alors, voilà ce que Joseph Ratzinger écrivait. C'est notre point suivant, le point 1.2, la foi en un seul Dieu. C'est le texte 4. La doctrine trinitaire n'est pas née d'une spéculation sur Dieu, d'une tentative de la pensée philosophique pour mettre au clair la constitution intime du principe de tout l'être. Elle résulte des efforts d'élaboration de certaines expériences historiques. La foi biblique dans l'Ancien Testament a d'abord rencontré Dieu comme Père d'Israël, comme Père des nations, comme Créateur et Seigneur du monde. Au temps du Nouveau Testament, où sont posés les fondements de la foi chrétienne, il se produit un événement tout à fait inattendu, où Dieu se montre sous un jour inconnu jusque-là. En Jésus-Christ, on trouve un homme qui se sait et se proclame fils de Dieu. Dieu apparaît sous la figure de l'envoyé, pleinement Dieu, non pas un être intermédiaire et qui cependant avec nous s'adresse à Dieu, en lui disant « Père ». D'où un singulier paradoxe. D'une part, cet homme appelle Dieu son Père, il s'adresse à lui comme à un toi qui lui fait face, et d'autre part, il est lui-même réellement la proximité de Dieu, venant à notre rencontre. Il est la médiation de Dieu par rapport à nous, parce qu'il est Dieu, existant comme homme, dans la forme et la nature d'un homme, c'est Dieu avec nous, l'Emmanuel. » Donc voilà, un texte tout à fait éclairant, et Joseph Ratzinger relève ici le paradoxe selon lequel l'homme Jésus appelle Dieu son Père, alors qu'il est en même temps lui-même Dieu avec nous, c'est-à-dire celui qui est divin, le médiateur du Père. Donc notre difficulté, et c'est bien une difficulté, c'est d'arriver à concilier ce qui est multiple avec ce qui est un. Pourtant, on voit bien que dans la manière dont Dieu se manifeste et se fait connaître, il y a aussi une multitude de manières de se manifester par sa parole, par son Fils, par son Esprit, et les hommes à qui Dieu se manifeste font cette expérience multiple de la manifestation de Dieu. Donc le rôle du dogme de la Trinité, ça va être de fixer des notions de filiation et de relation. Et pour fixer ces termes et ces notions de relation et de filiation, la théologie va utiliser des termes spécifiques. Seulement, on voit bien, l'histoire montre bien que si le dogme trinitaire, même pour nous aujourd'hui, nous pose parfois quelques difficultés de compréhension, ce qui est tout à fait normal, imaginez ce que ça a dû être dans les premiers temps de l'Église, où toutes les questions surgissaient. Là, on a à peu près répondu, grâce à eux,
grâce au Concile, aux questions fondamentales. Mais les questions surgissaient en grand nombre et de l'intérieur de l'Église. Donc l'Église a dû surmonter des controverses nombreuses de ce premier temps de l'Église pour pouvoir confesser un seul Dieu en trois personnes. Mais confesser Dieu en trois personnes, c'est déjà en soi un acte de foi. Vous voyez, ça rejoint l'acte de foi. C'est celui d'abord d'accepter de ne pas tout comprendre, ça c'est déjà une première chose, et d'accepter que la volonté de Dieu soit un mystère. C'est de sa volonté que la Trinité existe. C'est de sa volonté que ce Dieu se manifeste, et pour se manifester, il envoie son Fils. Et de plus, ce Fils, deuxième personne de la Trinité, a une double nature, nature humaine et nature divine. Et voilà ce qui va être la source et l'origine des débats et des controverses. Ça va être la nature de Jésus. Quelle est donc cette nature de Jésus ? Donc on va voir le point 1.3, le monothéisme trinitaire, à savoir croire en un Dieu unique. Puisque c'est ça tout de même l'enjeu. La foi monothéiste, elle est déjà inscrite dans l'Ancien Testament, dans ce qu'on appelle le schéma Israël. Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Schéma Israël. Écoute Israël. Écoute Israël, Yahvé notre Dieu est le seul Yahvé. Tu aimeras Yahvé ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Donc confesser cette confession de foi et confesser que Dieu est unique et qu'il n'y a qu'un seul Dieu, eh bien c'est une manière d'exprimer du temps de Moïse que cette confession de foi en un Dieu unique, elle s'est accomplie en Jésus-Christ. Puisqu'en Jésus-Christ, dans 1 Corinthiens chapitre 8 verset 6, eh bien on peut lire « Pour nous, en tout cas, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et vers qui nous allons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui viennent toutes choses et par qui nous allons. » Donc face au schéma Israël, nous avons 1 Corinthiens 8, 6. Et donc la clé de la doctrine trinitaire, c'est d'arriver à penser, en Deutéronome 6, 4, un Dieu unique, et en Corinthiens 8, 6, de penser qu'il y a un Dieu le Père, vers qui vient toute chose, et un seul Seigneur, un Fils engendré. Donc il va falloir que nous tenions à la fois l'unité en Dieu, et en même temps, je n'ose pas dire le nombre, parce que le nombre, ça vient, ou la multiplicité, vous voyez, ces termes-là ne sont pas adaptés. Mais en même temps, on a trois personnes, donc on a du numérique quand même, on ne peut pas faire autrement, on a du numérique. Donc pour l'Église, ça n'a pas été simple de pouvoir satisfaire à la fois l'exigence de la pluralité, du nombre, et en même temps celle de l'unité. Donc il a fallu convoquer des conciles lorsque les hérésies ont émergé. Et il a bien fallu que l'Église fixe le dogme. Donc notre grand Dieu, la Trinité, une question en débat dans les premiers siècles. La question de la doctrine trinitaire, on pourrait dire qu'elle s'est posée dès le début, dès le deuxième siècle, avec des théories qui ont été considérées bien sûr comme hérétiques et que l'Église a très fortement rejetées. Et donc, dans ces courants, il y a des courants hérétiques qui ont fait des émules, pour ainsi dire. Et on trouve principalement quatre mouvements, voilà, ou quatre courants, pour ainsi dire. C'est le monarchianisme, le modalisme, le subordinationnisme, et l'adoptionnisme. Alors on va les prendre les uns après les autres. Donc déjà, le monarchianisme. Alors les théories que nous appelons monarchianisantes proviennent des monarchiens. Voilà, c'est un terme que l'on doit à Tertullien. Tertullien, c'est un père de l'Église du 2e, 3e siècle, 120, 220, 160, il est né en 160, il meurt en 220. Et donc, c'est lui qui a, on va dire, pour ainsi dire, inventé ce terme-là. Et donc, les monarchiens pensaient que les trois personnes de la Trinité étaient des manifestations de Dieu. Donc, les monarchiens pensaient que Dieu se manifestait, c'est bien Dieu qui se manifestait, mais il se manifestait comme si Dieu dans la Trinité jouait des rôles différents. Le rôle du Père, le rôle du Fils, le rôle de l'Esprit, en jouant trois rôles différents. Donc eux, la signification qu'ils donnaient au terme de personne, ça s'apparentait à un terme grec que l'on appelle prosopone. Alors, ce terme-là, prosopone, prosopone, en grec, c'est le masque. Et du coup, bah, ça nous ramène au théâtre grec. Le théâtre grec, il portait des masques. Et donc, un masque, il y avait différents masques qui pouvaient jouer des rôles différents. Donc ça, c'est une mauvaise utilisation du terme de personne et du terme de prosopone de la part des monarchiens. Ensuite, on a les modalistes, le modalisme, le point 2.2. Alors, pour les modalistes, eh bien, ils expliquent la Trinité en disant qu'en fait, Dieu apparaît sous trois modes différents, selon les modalités. Soit il est le Fils, soit il est le Père, soit il est l'Esprit. Et donc, le Fils et l'Esprit, pour eux, ne sont qu'un mode de manifestation. Ce n'est pas une réalité, c'est un mode de manifestation du Dieu unique. Le Fils manifeste Dieu, l'Esprit manifeste Dieu, mais ce ne sont que des manifestations. Pour eux, l'avantage, c'est que ça leur permet de garder l'idée du monothéisme. Il n'y a pas trois dieux. Donc en disant si le Fils manifeste le Père ou l'Esprit manifeste le Père, de toute façon, ça garde toujours l'idée qu'il n'y ait qu'un Dieu unique. Ensuite, on a le point 2.3, le subordinationnisme. Voilà encore une hérésie. Et dans le subordinationnisme, eh bien Jésus, le Fils, est considéré comme étant inférieur au Père. Il est subordonné au Père. Ça veut dire que même si le Fils est engendré, de toute façon, il n'est pas l'égal du Père, mais il est son subordonné, il est inférieur. Parce qu'en fait, il n'y a que le Père qui est l'inengendré pour eux, ce qui est la vérité, le Père est l'inengendré. Mais si le Fils est engendré, c'est donc qu'il est inférieur au Père. Et le quatrième courant hérétique, c'est l'adoptionnisme. Point 2.4, l'adoptionnisme. Et donc ce courant considère que Jésus, en fait, ce ne serait qu'un homme qui aurait été promu au rang de Dieu, en fait, comme s'il avait gravi les échelons de la hiérarchie. Et donc, il est promu au rang de fils, et donc il serait comme adopté par Dieu, adopté par le Père. Donc ça, c'est ceux qui sont adeptes de ce courant, l'adoptionnisme. Donc, le modalisme ou le subordinationnisme obéissent à la même logique, c'est-à-dire l'impossibilité de penser la distinction des personnes entre elles. Ils n'arrivent pas à penser la distinction. Il faut qu'il y ait non pas une ressemblance, mais soit quelque chose qui ressemble au Père mais qui lui est inférieur, ou alors qui vient prendre le masque du Père ou le masque du Fils ou de l'Esprit. Donc il y a toujours une impossibilité.
Vous citez aussi le sabellianisme.
Oui, c'est ça, qu'on peut rapprocher du modalisme. Voilà, c'est à peu près. Sabellius qui était adepte.
Ouais, ouais. Enfin, c'est là, on confond Dieu et le Fils.
Voilà.
Ils se confondent.
C'est ça, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Comment ? Ah, c'est pas tout à fait la même chose, ça, les manichéens. On a plutôt ça en philosophie. C'est pas une hérésie. C'est pas une hérésie.
Ah, on trouve ça dans la gnose.
Oui, c'est ça. Mais la gnose, c'était des gnostiques avaient une vision de l'être suprême et de l'éon. Il fallait passer des éons successifs de manière à ce que l'élu, celui qui arrive à l'éon suprême, eh bien, était. Le salut était compris, c'était un salut par la connaissance, uniquement. Mais le salut par la connaissance ne fait appel qu'à des élites. Donc en fait, c'était des élus qui étaient appelés par la connaissance à se rapprocher de l'être suprême. Mais là, on n'est pas du tout dans cette configuration-là, en fait. Là, on est plutôt comment ces courants hérétiques ont permis, parce que vraiment ils ont permis, parce que la question qui se posait sur la nature du Fils, le Fils est-il de même nature que le Père ? Ça, c'était la grande question. Ben, voilà, les réponses étaient des courants différents. Mais cette question-là, elle est légitime. La réponse est hérétique, mais la question est légitime. Donc l'Église, ça lui a permis de choisir un vocabulaire, d'affirmer la règle de la foi et de faire en sorte que sa réponse soit normative pour toute la foi. C'est ça. Sinon, chacun pouvait exprimer une foi différente. Donc, l'enjeu, c'était bien l'unité de la foi. C'était pas simplement... Et puis l'unité de l'Église aussi dans l'Empire, parce qu'on est bien sûr dans l'Empire.
La typologie de l'hérétique, c'est-à-dire non conforme ?
C'est non conforme, mais c'est ce qui ne correspond pas à la norme, déjà. Donc on a quelque chose qui est en dehors de la norme, en dehors de la doxa. Et donc les formulations dogmatiques, elles ont eu, enfin et l'Église et les conciles ont eu cette responsabilité d'introduire le vocabulaire existant, qui est un vocabulaire grec, et faire en sorte qu'il devienne normatif pour la foi. Ça, c'était un grand enjeu. Comment faire que le langage de la foi, à partir d'un langage grec, puisse être normatif pour toute l'Église de génération en génération? Ça, c'est un grand enjeu. Et donc, il va falloir attendre quand même bien des conciles pour que la théologie puisse s'élaborer à partir de ce terme-là. Mais là déjà, voyons l'affirmation dogmatique à Nicée. Le point 3, l'affirmation du concile de Nicée en 325. Donc la question, elle est prégnante en 325. Et la question qui se pose à Nicée, elle est particulière, puisque comme je vous le disais, il s'agit de répondre à la question de la nature du Fils. Le Fils est-il de même nature que le Père ? Le Fils est-il subordonné au Père ? Ou alors est-il de nature inférieure ? Ce sont des questions qui sont pertinentes. Et donc, la réponse à ces questions-là, elles vont pouvoir s'exprimer au fur et à mesure de la convocation des conciles. Au fur et à mesure que les conciles sont convoqués en raison d'une question hérétique, eh bien l'Église va affiner sa réponse pour arriver jusqu'au credo que nous connaissons.
Par rapport à des questions qui vont devenir hérétiques.
Oui, ce sont les questions qui sont... Ah ben aux questions, oui.
Voilà, il n'y aurait pas eu un lieu sur la
bien sûr,
voilà,
bien
tout
sûr,
aurait été
bien sûr,
très fluide. En fait.
Bien sûr, oui, oui, tout à fait. Au départ, ce ne sont que des questions légitimes. Voilà, mais c'est après que les questions sont hérétiques. Voilà, mais il faut attendre la réponse à la question. Alors, Pour nous aider peut-être à comprendre le problème, on peut peut-être regarder l'écriture encore une fois. Je cite souvent Exode 3,14, hein, « Je suis qui je suis hein, », cette identité du Père. Le « je », « je suis qui je suis », dans Exode 3,14, le « je », c'est donc Dieu le Père qui engendre, et qui engendre un « tu ». Et le « tu », c'est le Fils, c'est Jésus-Christ Sauveur, qui va mettre en œuvre la mission qu'il a reçue du Père. Et le « je » et le « tu », l'action du « je » et du « tu » est mise en œuvre par l'Esprit, c'est-à-dire celui qui agit et celui qui sanctifie. Ce que fait le Fils, un miracle par exemple, c'est quelque chose de sanctifiant par l'Esprit. C'est l'action de l'Esprit qui guérit et qui sanctifie. Donc là, on a un « je », un « tu » et un « il ». Donc la question qui se pose à Nicée, c'est précisément, est-ce que « je » et « tu » sont de même nature ? Est-ce que le « je » et le « tu » sont de même nature ? C'est pour ça que on est obligé d'aborder la question du vocabulaire. On est passé de personne tout à l'heure à nature maintenant. Donc 3.1, la question du vocabulaire. Alors le mot nature pose déjà une difficulté parce que la nature indique ce qui est simple en soi. Et donc la nature, elle s'oppose, je vais aller plus lentement peut-être, je vois des mains qui souffrent. Oui, voilà, la nature, c'est ce qui est simple en soi. Et donc la difficulté, c'est comment ce qui est simple en soi peut-il se comprendre comme étant multiple ? Et comment ça peut s'opposer au multiple ? La nature est ce qui est simple en soi, et ce qui est simple en soi s'oppose au multiple. Donc la question qui se pose aussi à Nicée, c'est comment il est possible de déterminer en un seul mot, qui est le mot nature, de déterminer l'un, ce qui est unique, l'un et le multiple. C'est toute notre difficulté. Pourtant, Anicée, c'est le mot nature, oussia, que vous avez sur votre tableau, c'est ce mot-là qui a été choisi, c'est oussia, c'est nature, et ce n'est pas un mot. Et qu'est-ce que signifie l'oussia ? L'oussia signifie l'essence, ou la substance, ou la nature. Alors, on pourrait s'arrêter au terme de substance. Si on parle de substance, eh bien, on comprend que la substance va qualifier quelque chose, va qualifier ce qu'elle est par essence. Comment je pourrais dire autrement ? Nous sommes déterminés par notre nature humaine et par essence, nous sommes humains, ce qui nous différencie de la nature animale ou de végétale. Vous voyez, on n'est pas les trois à la fois. Donc c'est ce qui nous, notre nature humaine, elle est simple en elle-même et elle nous détermine par rapport à ce que nous sommes pas. Nous ne sommes pas végétales, nous ne sommes pas animales. Voilà. Donc ça veut dire que notre substance, c'est d'être humain, c'est d'être homme et femme. Ça, nous sommes de cette substance. Notre substance, c'est d'être de nature humaine. Ça, c'est notre substance. C'est pour ça que le terme de oussia, de nature, il peut être pensé comme essence ou comme substance. Et c'est ça que détermine, c'était le choix que fait de Nicée. Il détermine la nature par oussia. Et donc, en parlant de l'oussia comme étant l'essence ou la substance, eh bien ça va permettre au Concile de Nicée d'affirmer que le Fils est de même nature que le Père, et donc, ce que vous savez, que le Fils est consubstantiel au Père. C'est cela que nous confessons. Le Fils est consubstantiel au Père, parce qu'il est de la même nature que le Père. Et la même nature que le Père en grec, c'est l'essence ou la substance. Il est de la même substance que le Père. C'est cela que nous confessons. Le Fils est consubstantiel au Père. Donc la question de l'ousia, de la nature, elle est au cœur des débats. Et donc, comme elle est au cœur des débats, et qu'en 325, eh bien, l'empereur, c'est Constantin, eh bien Constantin, puisque jusqu'au XIe siècle, ce sont les empereurs qui convoquent les conciles et non pas les papes, on est dans un régime césaropapiste, et après 1054, on va passer à un régime papo-césariste. Donc là, c'est l'empereur qui convoque le concile, parce que l'empereur Constantin ne veut pas de remue-ménage dans la cité, qu'il faut bien maintenir l'unité de la cité, l'unité de l'Empire et l'unité de l'Église qui est dans l'Empire. Donc il convoque le concile. Et donc, le concile est convoqué parce que ce prêtre d'Alexandrie, que l'on appelle Arius, vient justement poser la question et remettre en question la nature du Fils. Et donc, son hérésie à lui, elle est basée sur le verset qui est issu d'Isaïe au chapitre 42 au verset 8. Vous voyez, Arius, il s'appuie sur l'écriture pour affirmer sa question. Et qu'est-ce qu'on lit dans Isaïe 42, verset 8 ? On lit « Je suis Yahvé, tel est mon nom, ma gloire, je ne la donnerai pas à un autre, ni mon odeur, ni mon honneur aux idoles. Ma gloire, je ne la donnerai pas à un autre. » Donc Arius, s'appuyant sur ce verset de l'Écriture, va considérer que le Fils ne peut être ni né ni engendré, et que seul le Père est de nature divine, puisque le Père, d'après Isaïe 42, 8, ne veut pas donner sa gloire à un autre, et donc qu'il est le seul. Et donc, l'affirmation d'Arius va déclencher une querelle historique dans l'histoire des conciles.
Alors, si j'ai bien compris,
même si Arius a été excommunié, exilé, oui, il n'empêche qu'il a fait des disciples et que l'hérésie d'Arius a persisté encore bien après lui. Ce qui veut dire que les conciles qui ont succédé le concile de Nicée ont toujours eu à défendre, d'une manière ou d'une autre, l'hérésie d'Arius du début de ce IVe siècle. Mais il y avait peut-être un peu de subordinationnisme, de sabellianisme, il y avait un peu de tout ça.
C'est quand même dans l'évangile de Jean, le Père est plus grand que moi.
Oui.
Arius,
oui,
s'est bien accroché là-dessus.
Oui,
et sur,
oui,
d'autres,
oui.
Oui. Ah, il y a eu une approche très scripturale.
Oui, mais vous voyez bien, ça montre bien que les questions de l'Église n'ont pas surgi de l'extérieur de l'Église. Luther, c'est pareil, il n'était pas à l'extérieur de l'Église, il était bien dans l'Église. Mais il n'est pas inconcevable qu'on se pose des questions qui sont quand même des questions pertinentes. Et la question, elle devait être posée. Et de fait, elle a été posée, mais la réponse qui a été donnée était une réponse qui va construire, qui va être le fondement de la foi chrétienne. Parce que bien sûr, ça a obligé l'Église à penser par elle-même quelque chose au-delà d'elle-même, c'est-à-dire en raison que le Fils ne pouvait pas être d'une autre nature que le Père. Parce que si le Fils était d'une autre nature que le Père, alors le Fils ne pouvait pas sauver le monde, ne pouvait pas sauver les hommes. Il faut toujours se ramener à j'allais pas dire le but parce que c'est pas très approprié, mais vous voyez, il faut jamais se défaire de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est pour l'homme, pour sa créature. Et pourquoi ? Parce qu'il l'aime. Et parce qu'il l'aime, il veut la sauver. Donc on ne doit jamais se défaire de cela. Donc si le Fils veut sauver l'humanité en mourant sur la croix, alors c'est qu'il est de même nature que le Père. Mais de fait, le Fils est né de Marie, a pris la nature humaine, et que la question se posera aussi de savoir s'il est homme, peut-il être en même temps homme et Dieu ? Voilà la question qui se posera après. Peut-il être en même temps les deux ?
Il faut reconnaître que le mot « nature »
Et donc le dogme a besoin d'être fixé. Si le dogme veut perdurer dans l'histoire, et dans l'histoire de l'Église, et dans l'histoire de la foi, il doit être fixé. Donc c'est notre point 3.2, la fixation des termes de la théologie trinitaire.
Excusez-moi,
C'est bien. Alors on en arrive à ce point 3.2, la fixation des termes de la théologie trinitaire. Et donc, le Concile va déclarer contrarius le terme dont je vous parlais ici, que vous avez au tableau, le terme d'homo ousios, signifiant de même nature. Et donc, le terme qui va être choisi, ça va être celui de consubstantiel. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, engendré et non pas créé, consubstantiel au Père. Et ça, c'est le symbole de Nicée que je vais vous lire. Voilà ce que le Concile de Nicée a déterminé et a fixé. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, né du Père comme Fils unique, c'est-à-dire de la substance du Père. Il est Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre, qui pour nous les hommes et pour notre salut, a souffert et est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, viendra juger les vivants et les morts, et dans l'esprit. Quant à ceux qui disent « Il y eut un temps où il n'était pas » ou encore « Avant de naître, il n'était pas » ou encore « Il a été fait à partir du néant » ou encore « Le Fils de Dieu existe à partir d'une autre hypostase » c'est-à-dire une autre personne ou substance ou « Il est une créature » ou encore « Il est muable ou changeant » l'Église catholique et apostolique les anathémise et donc Arius a été exilé et anathémisé. Voilà. Oui, avec ses disciples, bien sûr, pour la question de l'esprit. Oui. Donc voilà, tout ça pour vous dire que l'Église s'est efforcée, malgré les difficultés de langage, et on voit bien que c'est encore une question de langage et de traduction, eh bien, à essayer de trouver les termes les plus adaptés, les plus adéquats pour exprimer la réalité trinitaire. Et le consubstantiel, finalement, c'est un terme qui nous parle bien. Il est de la même substance que le Père, donc il est de même nature. Et en même temps, en disant qu'il est consubstantiel au Père, on arrive à maintenir la distinction, parce qu'on sait bien que s'il est de la même nature, en raison de son action est différente de celle du Père. Lorsque le Fils est incarné, c'est bien le Fils qui agit, et que son action, c'est une action propre. Et ce n'est pas l'action du Père, parce que le Fils n'est pas un pantin du Père. Vous voyez, il agit en toute liberté. Et donc ça, c'est important de tenir fondamentalement la distinction des personnes entre elles. Donc voilà le principe et les formules trinitaires, c'est notre point 3.3. Le premier lieu de l'écriture, le premier lieu de vérification de tout cela, bien sûr, c'est l'écriture. Et l'Église qui a déterminé le dogme trinitaire n'a pas fait autre chose que de consulter l'écriture. Parce que l'écriture va donner des clés de compréhension. C'est l'écriture qui nous permet de comprendre que le Père, le Fils et l'Esprit sont différents, sont distincts. Et qu'il nous faut, nous aussi, distinguer le Père du Fils et de l'Esprit. Et dans le même temps, professer qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est pour ça que je vous disais au début que la confession de foi trinitaire est christologique. Parce que c'est à partir de l'incarnation du Fils que nous pouvons comprendre que nous avons accès à la Trinité. Je vous lis le texte 8 qui est un verset de 1 Corinthiens 8-6 où on peut lire « Pour nous, en tout cas, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et vers qui nous allons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. » Jésus-Christ, par qui viennent toutes choses et par qui nous allons. Ce verset que je vous ai lu tout à l'heure en comparaison avec Deutéronome, avec Isaïe. Donc la confession de foi monothéiste, c'est-à-dire la confession de foi qui confesse et professe qu'il n'existe qu'un seul Dieu, eh bien professe également que le Fils est le médiateur du Père. Jésus-Christ, c'est ce que nous dit 1 Corinthiens 8-6, par qui viennent toutes choses et par qui nous allons, nous montre bien la dimension christologique de la Trinité. L'objectif, oui. Voilà. Donc l'objectif, c'est bien de garder intacte la foi qui est confessée dans les Écritures, comme l'évangéliste Matthieu nous le rappelle précisément à la fin de son évangile, au chapitre 28. Et au verset 19-20. Et ces versets-là, on peut dire qu'ils constituent la règle même de la foi en un Dieu un et trine. Où Matthieu dit « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit, dit Jésus, et voici que je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin des temps. » Dans la bouche de Jésus naissent ces paroles qui instaurent déjà la Trinité, ce Dieu un et trine. Et ça nous dit quelque chose de l'économie trinitaire. Parce que le Père va sauver par sa parole, et ça c'est le projet du Père. Le Père va envoyer le Fils, et là c'est la mission du Fils. Et le Fils est donc le médiateur du Père, et l'Esprit advient par la mort et la résurrection, surtout du Fils, ce Fils ressuscité par la puissance de l'Esprit. Donc il y a bien une relation d'amour interne à la Trinité. Mais cette relation d'amour interne, elle est donnée pour sortir d'elle-même, en vue des hommes, pour sauver les hommes, elle n'est pas pour elle-même. Donc le Christ accomplit le dessein du Père, le Fils va achever son œuvre salutaire en répandant l'Esprit à la Pentecôte sur les apôtres. Et donc les apôtres deviennent à leur tour, enfin deviennent, pas à leur tour, deviennent des fondateurs d'Église. Donc on voit bien le cheminement économique de la manifestation de Dieu en sa parole, par son Fils incarné, par l'Esprit qui vient par sa puissance ressusciter le Fils, et puis ce même Esprit qui est donné aux apôtres pour fonder l'Église, et ce même Esprit que nous avons reçu à notre baptême. Ce n'est pas un autre Esprit que celui-là. Voilà ce que dit Balthazar.
Ah oui.
Il dit, c'est seulement à partir du comportement de Jésus à l'égard de son Père et de l'Esprit que nous apprenons quelque chose des relations trinitaires de vie et d'amour dans le seul et unique Dieu. C'est quand on voit le Fils s'adresser au Père et quand on voit l'action du Père pour le Fils que nous avons, en lisant les Écritures, une vision de ce qu'est la Trinité, de ce qu'est la relation d'amour entre eux. Et que cette relation d'amour, elle n'est pas que pour eux, elle est pour nous. Donc en annonçant le règne de Dieu, ben on peut dire que Jésus vient accomplir et qu'il est l'ultime porteur de l'Esprit. Il est l'ultime porteur de l'Esprit. Donc cet Esprit qui est uni à lui, eh bien, va révéler sa condition de fils. Donc en annonçant le règne de Dieu, Jésus a laissé s'accomplir en sa personne, pas la personne d'une autre, en sa personne, un acte qu'on pourrait qualifier un acte de majesté de la part du Père, c'est-à-dire un acte par lequel Dieu se révèle au monde. Il se révèle au monde par son Fils. C'est un acte d'amour et c'est un acte de majesté, on pourrait dire. Ce qui fait que Jésus n'est pas un membre comme les autres de la communauté nouvelle, hein, avec Dieu, ceux qui croient en Dieu, les Juifs convertis par exemple, qui font partie de cette communauté nouvelle. Jésus ne fait pas partie de cette communauté nouvelle. Il est le Fils de Dieu, il n'est pas un membre de la communion. Il est lui-même communion trinitaire. Parce que Jésus ne peut pas être séparé du Père, jamais. Et même la mort sur la croix ne le sépare pas du Père. Le Fils vient nous montrer une filiation, la filiation divine. Et en même temps, comme cette filiation divine, elle est aussi pour nous, eh bien, il nous montre qu'il y a une filiation adoptive. Nous devenons participants de la nature divine. Nous dit le Concile Vatican II. Donc Jean nous dit, en 3.17, « Le Père est celui qui envoie et qui, par l'acte d'envoi, fonde toute l'existence de Jésus, en assume la responsabilité, l'accompagne et détermine son but. » C'est le salut du monde dont parle Jean. Parce qu'il dit, car, et là je cite Jean, « Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Donc vous voyez bien que le dogme trinitaire, il est lié à cet événement-là. Il est lié à l'événement de la manifestation de Dieu et à l'événement de l'incarnation du Fils. Ça veut dire que la foi de l'Église, la foi que nous professons, on dit que c'est une foi sotériologique, du verbe soter, soter en grec. Soter, c'est sauver, c'est le salut, soter. Sauter, ça veut dire sauver. Et donc la sotériologie, c'est le salut. C'est la dimension de la théologie qui va aborder le salut. Mais c'est un salut qui ne va pas oublier l'origine juive du salut. Vous voyez, on n'oublie pas cela. Hein. Et pour ne pas l'omettre, voilà, omettre ce point très important, voilà ce que un bibliciste italien, je vous ai mis le texte, Romano Penna, il dit « L'affirmation de Jean 4,22, selon laquelle le salut vient des Juifs, atteste la connexion fondamentale qui lie le christianisme au judaïsme. Le premier dépend du second, et du point de vue historique, et du point de vue des idées. » Le discours chrétien sur le salut ne disposerait ni d'un langage, ni d'une matière, s'il ne perpétuait pas la tradition d'Israël. Ça, on doit bien garder ça en tête. On n'oublie pas que le peuple d'Israël, c'est le peuple élu. C'est le peuple que Dieu a choisi pour se manifester. et que la tradition d'Israël, elle s'inscrit dans la foi en un Dieu unique, et que cette foi en un Dieu unique, elle se perpétue dans l'Église. Voilà. Donc, j'arrive à la conclusion et on pourra ensuite avoir notre temps de questions. Donc, en conclusion, que devons-nous retenir de la confession de foi en un Dieu un et trine ? Donc, pour confesser la foi en un Dieu un et trine, nous devons revenir à l'origine. L'origine, eh bien, c'est Dieu créateur. Dieu est créateur. Il est unique. Il décide de se révéler et il décide d'aller à la rencontre des hommes. Il va à la rencontre des hommes par sa parole, puis par son Fils unique, son Fils incarné. Donc ce Dieu créateur n'est pas un Dieu inaccessible. C'est un Dieu qui se fait connaître. Et c'est un Dieu qui veut se faire connaître. C'est sa volonté. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas accidentel. C'est sa volonté. Et il se fait connaître par son Fils, qui est le Fils de Dieu et qui est la parole incarnée. Et c'est par son Fils que nous découvrons qu'il a aussi un Père et que Dieu est aussi Père. Ça, c'est important de découvrir la paternité de Dieu. Dieu a un Fils et Dieu est Père. Et d'ailleurs, le Christ nous révèle Dieu comme un Père. C'est par le Christ, enfin par lui, que nous pouvons dire « Abba Père », que nous pouvons dire « Notre Père ». Et donc le Fils, ce médiateur du Père, est Dieu même. Voilà, c'est pas un Dieu autre, c'est Dieu même. Et il est lui-même homme même, Dieu même et homme même. Il est l'un et l'autre en réalité, en totalité, sans confusion. Et puis l'Esprit, cet Esprit qui est commun aux trois personnes de la Trinité, mais l'Esprit, ce n'est pas un troisième qui viendrait s'intercaler entre le Père et le Fils. C'est-à-dire que l'Esprit ne va pas se confondre avec les autres personnes de la Trinité. L'Esprit va agir du Fils et va agir du Père. Et lorsque l'on proclame le kérigme, Jésus-Christ est vraiment ressuscité, le kérigme est en lui-même trinitaire. Parce que le Fils est ressuscité par le Père, du Père, par la puissance de l'Esprit. Le kérigme, il est fondamentalement, foncièrement trinitaire. Le kérigme, Jésus-Christ est vraiment ressuscité lorsqu'on proclame. Ah, je vais vous l'écrire. K-Y, K-E-Y, ça vient de kérigma. Kérigme. Comment je peux faire d'écrire? Je vais l'écrire en plus gros, oui. Je vais l'écrire au milieu, en gros. Kérigme. Ça vient de kérigma en grec. L'annonce. Excusez-moi.